franceinter.fr.
Maestro Jordan, vous êtes attendu en fosse d'orchestre. Maestro Jordan, vous êtes attendu en fosse d'orchestre.
Avons-nous le maestro? Pas de maestro.
Okay, come on, guys.
Yes.
I want to start now.
Yeah, okay.
I'm in the mood now.
Est-ce qu'on a le chef? C'est bon.
Le maestro est sur le plateau.
Allons-y.
Les filles, vous m'entendez?
Yes, sir. We hear you.
Please, I need help.
Non, je déconne.
Allez.
Una are to vous.
Hey, boy! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
À l'intérieur d'un monde dans le nôtre, avec des murs, des bureaux ou des coulisses, un patron, des employés, que ce soit de l'art ou du business, cela reste une entreprise et du collectif. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
On ne sait pas ce qu'elle produit, cette entreprise. Peu importe, l'essentiel c'est de faire du chiffre au mépris de l'humain. Corporate, le film de Nicolas Sciol, raconte ça, le management par la terreur. Bonjour Céline Salette.
Bonjour.
Vous êtes au cœur de cette histoire, une responsable des relations humaines, apparemment impitoyable, mais dont la carapace va peu à peu se fissurer. Corporate sort mercredi prochain. Même si l'on y danse et si l'on y chante, cela reste une entreprise. L'opéra, un film dans ses coulisses pour scruter le travail et la perfection dans la douleur parfois. Bonjour Jean-Stéphane Bron.
Bonjour.
Bravo pour cette plongée vertigineuse dans l'institution et dans le désir d'excellence pour que chaque soir le rideau se lève. L'artistique et le travail dans un même film, l'opéra, sort également mercredi prochain. Les nouveaux films de la semaine avec notamment trois figures de proue, Félicité d'Alain Gomis, Prix de cours d'Emmanuel Cuo et une fascinante reprise Hutu.
Vous pouvez venir ici côté jardin qu'on vous montre une position. C'est juste, c'est la même chose que vous avez fait ordonner, c'est tout. La même chose que vous avez fait mais ordonner. Dans une position claire.
Ce serait l'idée de reprendre ici la diagonale en fait.
Non, pas de diagonale.
On fait un carré.
C'est notre solo.
Non, c'est notre solo.
On le fait en carré. On le fait pas en diagonale. On l'a fait en carré, c'était magnifique. On le fait pas en diagonale. C'est fini.
Bon. Faut arrêter de nous prendre.
Non, attends.
C'est le change. Ça, c'est comme ça.
On l'a fait avec Philippe, c'était parfait.
Non,
c'est bon.
Le cœur se rebiffe, extrait d'opéra. Un ballon d'oxygène dans votre filmographie documentaire, Jean-Stéphane Bron, après notamment le génie helvétique Cleveland contre Wall Street ou l'expérience Blocher. L'opéra, un monde qui vous était inconnu avant de le filmer, d'où la fraîcheur et l'acuité du regard. L'opéra Bastille et Garnier à un moment clé de son histoire. Nouveau directeur Stéphane Lissner, nouvelle équipe, plus 1000 pieds. Au ballet, l'ambition au départ, vous qui ne connaissiez pas l'opéra, c'était de filmer des humains dans un lieu.
Non, c'était l'idée de filmer une société.
Ouais. Dans la nôtre.
Disons, je venais de terminer un film sur le leader de l'extrême droite en Suisse.
Ah bon, alors allez-y, filez la métaphore.
Non, j'avais passé 2 ans avec lui dans un face-à-face assez éprouvant.
Ouais.
Et puis voilà, c'est aussi contre ce film, à partir de ce film, que j'ai envie de filmer un collectif au travail. Et en me disant, qu'est-ce qui fait société aujourd'hui? Qu'est-ce qui réunit encore les gens? Qu'est-ce qui peut les réunir? Ça, c'est le point de départ. Ça, c'était le mien personnel. Et après, ça a coïncidé avec mon producteur, Philippe Martin, au film Pélas, qui est fou d'opéra, qui y va très régulièrement. Et qui me dit, écoute, il va y avoir un changement à la tête de l'Opéra de Paris. Est-ce que ça peut t'intéresser? Ça m'a...
Compliqué à convaincre le Stéphane Lissner en question. Mais vous aimez bien aller dans les forces contraires.
Disons, non, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a c'est intéressant quand ça résiste, après qu'aussi quand c'est pas évident, si les gens vous disent venez, j'adore être filmé, faut fuir quoi, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit une rencontre, faut que ce soit difficile pour l'un et pour l'autre, il faut qu'on se trouve, c'est une forme d'apprivoisement, d'apprentissage mutuel.
Avant d'entrer dans le film, finalement, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, vous qui connaissiez pas l'opéra?
Bon, j'y allais avec cette question de dire qu'est-ce qui fait société, qu'est-ce qu'il y a de politique à l'intérieur de cette société, comment on filmerait une démocratie autre, en action, quoi. J'ai eu le sentiment de filmer une forme d'utopie, de dire, voilà, il y a quelque chose qui, malgré les conflits, c'est un lieu d'inégalité aussi, c'est un lieu de revendication, c'est un lieu, mais c'est aussi un lieu de cohésion qui se fait autour de quelque chose qui a un horizon, un projet commun, et c'était assez, Je m'attendais pas forcément à ça, disons, mais c'est ça aussi que j'ai cherché.
C'est la démocratie suisse en acte, selon vous.
Pas très suisse, mais parce qu'on est beaucoup plus pacifique. Mais...
c'est un lieu d'excellence aussi.
C'était d'essayer de se rapprocher de... Disons, tout le film est construit dans la coulisse dès le départ, c'est de dire aux spectateurs, vous allez assister à tout ça dans la coulisse. C'était une première contrainte que je m'étais fixée. La deuxième, c'était de dire le spectacle, on le verra, mais toujours à travers le regard d'un personnage. On découvre le résultat final. On est toujours dans les yeux de quelqu'un qu'on connaît un peu, un personnage qu'on connaît un peu, donc dans son émotion. Et l'autre contrainte, c'était de dire, faut que la musique, faut que l'opéra lui-même, faut que le film devienne aussi de sa manière opératique. Donc j'ai un peu étudié la structure. Qu'est-ce que c'est un opéra et en quoi le cinéma a aussi à voir avec cet art.
Et le béotien que vous avez choisi, c'est Misha Tinashenko, qui est un jeune baryton basse, mais qui est un peu vous en fait, parce qu'il arrive et il découvre émerveillé ce bâtiment et cette institution.
Moi, je viens pas d'un petit village russe, mais d'un petit village dans la banlieue de Lausanne, en Suisse. Mais c'est vrai que j'ai essayé. Il y a 1600 personnes qui travaillent à l'Opéra de Paris. J'ai essayé de trouver une sorte de délégué, d'ambassadeur, quelqu'un qui, comme moi, avait cette langue à apprendre. J'avais pas le français à apprendre, contrairement à lui, mais la langue de l'opéra, la langue de la musique aussi. Et c'est vrai que c'est un personnage sur lequel je me suis beaucoup appuyé. Donc, je l'ai cherché. C'était pas un hasard. Je me disais, il faut que j'ai une figure comme ça étrangère à ce monde. Comme un migrant qui va réussir son intégration à cette société.
Et quand Lissner arrive, il dit « Tiens, Dieu, viens nous voir ».
Ce qui est... Non, c'est vrai, Lissner ne savait pas qu'il disait ça. Misha ne savait probablement pas que j'étais en train de tourner avec le directeur. Et c'est vrai qu'il...
Lissner, c'est vraiment Dieu là-bas. Enfin, il a une autorité, une aura énorme, non?
Il l'a par sa carrière et puis par les choix qu'il a fait qui sont et puis il l'a parce que je l'ai aussi vu comme une sorte de figure présidentielle. Je me disais au huitième étage on a la présidence, au septième on est avec le premier ministre, en bas il y a et donc c'est aussi une idée de encore une fois de rappeler par le découpage d'espace, par une forme de mise en scène aussi ces rapports de force, ces rapports de classe.
Donc l'opéra c'est un monde en soi et c'est un monde qui est cher vu de l'extérieur. Et on a choisi un extrait où il est question justement du prix des places.
Avec les prix qu'on a, est-ce qu'on est convaincu qu'on a une partie du public qui n'a pas les moyens de venir à l'Opéra de Paris? Et moi je suis désolé, je viens avec ma femme à 150 euros, je paye 300 euros, je viens avec ma femme à 230 euros, j'en suis pratiquement à 500, j'en suis à 460 euros. Vous n'allez pas me dire que 300 euros pour une soirée c'est pareil que 460. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, si j'ai pas cet argent, si moi je peux pas y aller, j'ai une image négative de l'Opéra de Paris, qui fait payer 300 euros pour aller voir un spectacle que moi je ne peux pas aller voir. Cette image, elle est négative.
Et les prix ont augmenté, juste par exemple pour la Bohème, entre 2001, 2002 et 2014-2015, le prix moyen a augmenté de 91%, alors que l'indice des prix à la consommation des ménages n'a progressé que de 23%.
C'est sûr que 23% et 91%, c'est un chiffre qui parle quand même. Donc c'est sûr que là, on arrive à des prix qui sont effectivement... Moi, je suis convaincu. Alors, prenons un exemple concret. Le prix le plus cher pour la damnation de Faust, c'est combien?
En première catégorie,
231 euros. C'est combien le prix pour le spectacle les moins chers d'opéra?
162.
Voilà. On a tout dit. Vous avez 231 euros d'un côté, vous avez 162 euros d'un côté. Maintenant, imaginez que le spectacle de la damnation de Faust avec Kaufmann est à 162 euros. Ça change complètement l'image de l'opéra. On a donc deux solutions. Ou bien, au fond, on continue ce gap, on crée davantage encore d'élitisme d'un côté et de bon marché de l'autre, et on exagère, on accentue ça, ou alors on reste dans une moyenne, entre guillemets, c'est-à-dire une moyenne sur laquelle on essaie de jouer avec des indices assez faibles.
Je pense qu'on n'y arrivera pas, parce qu'aujourd'hui, la billetterie, elle est entre 70 et 80 millions d'euros, et pour baisser beaucoup les prix sur deux tiers des soirées, je crains que ce soit, je crains que la marge soit trop haute.
Jean-Stéphane Bron, pour obtenir une telle qualité de, enfin, je veux dire, c'est passionnant cet échange. Ça se prépare ou vous trouvez ça à l'improviste? Vous débarquez pour filmer ça?
Non, ça se prépare. C'est même la plupart du temps, j'essaie d'expliquer pourquoi je veux être là, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette discussion qui a duré, vous en doutez bien plus que le temps de cette séquence, presque toute une journée à réfléchir sur comment démocratiser l'opéra. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, évidemment, on a des prix qui sont un peu effarants. On peut aller pour l'opéra pour moins cher que ça, je vous rassure. Mais ce qui m'a intéressé en restant sur cette... c'était de dire, c'est à quel prix, au fond, on intègre. On rentre dans... Quel est le prix à payer de tout ça? Quelle est la valeur de ce qu'on a vu? Comment est-ce que l'État intervient là-dedans? Comment est-ce qu'on... Voilà, on voit qu'il y a aussi, dans le film, il y a une mécène qui finance une classe. Pour moi, c'était le rapport aussi entre l'argent privé et l'argent public. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui qu'est-ce qu'on soutient? Pourquoi on le soutient? Derrière cette séquence, il y a un peu ces questions-là aussi pour moi.
Céline Salette, vous avez vu ce doc et vous avez vu surtout parce qu'il filme le travail, vous avez vu le travail d'artistes, les répétitions, les musiciens... Les danseurs, la danseuse, j'adore ce plan qui sort essoufflé, qui s'écroule de scène. C'est quoi votre regard, vous, d'actrice, là-dessus?
Ben, franchement, c'est un peu intimidant. Je veux dire, on peut pas être aussi bon que ces acteurs.
Pourquoi?
Non, mais parce que c'est parce qu'ils jouent pas. Non, parce que ce qui est très beau, vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
Non, ce qui est très, très, très puissant, c'est qu'on est dans le secret, on est dans l'intimité, on est au plus près de ce qu'est une mise en scène et un... Parce qu'on est dans le documentaire, donc on est dans la vérité, en fait. Ouais. Donc c'est bouleversant. C'est bouleversant, c'est comme des flagrants délits permanents. Je pense que c'est le rêve de tout metteur en scène. Vous avez dû vous régaler en permanence. Et en tant que spectateur, c'est bouleversant parce que, je vous dis, on est dans l'intimité des gens, on est dans le secret, on a l'impression de tout le temps grappiller des bouts des vols, quoi.
Ouais.
On a l'impression de voler tout le temps, d'être derrière vous avec la caméra et de voler.
Alors
ça se fait pas. J'avais choisi d'un ensemble de personnages, de figures, donc c'est ce qui m'a permis de garder une sorte de cap quand même, parce que il y a tellement de spectacles, tellement de personnes possibles. Donc c'était de dire comment est-ce que j'arrive à couvrir un peu tous les pôles, tous les centres de gravité de cette société à travers le chef d'orchestre, le directeur de la danse, le directeur, les petites mains. Et d'articuler, en fait, justement, avec l'idée de me dire, je filme quand même quelque chose qui est une société qui a un horizon, qui a une perspective, celui très concret de lever le rideau tous les soirs, mais aussi, voilà, dans cette société-là, contrairement à Corporate, le chapelier, la costumière, l'un ne peut pas faire sans l'autre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait sens aussi pour tout le monde.
Céline Salette, vous avez fait beaucoup de théâtre, imaginez un Jean-Stéphane Bron qui vient vous voir, vous voyez, en coulisses ou en répétition, il y aurait la même ferveur et autant de travail.
Bah, évidemment.
Le travail vous a pas, moi ça m'a ébloui quand même, la façon dont ces répétitions, les musiciens, les barytons, c'est...
C'est sublime.
Ouais.
Mais moi, c'est... je comprends, mais le spectaculaire, c'est pas ce qui m'a le plus fasciné. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est l'intimité dans le film. Bien sûr que le spectaculaire est très beau, enfin je veux dire, c'est extraordinaire. Mais moi j'étais très très bouleversée par l'intimité. Tout ce qu'on surprend. C'est ça qui était beau. Dans les répétitions, tu sais, la place du cœur, les espèces de tout est négociation. C'est là qu'on voit que tout est... Pour moi c'est presque un film sur la communication. C'est presque un film sur comment on fait œuvre ensemble et donc comment on négocie, comment on travaille ensemble. C'est quoi travailler ensemble?
Non, c'est ça. Si on dit la politique, c'est comment est-ce qu'on décide de vivre ensemble? En gros, si on peut résumer ça à ça, la politique, c'est ça. C'est qu'on va décider collectivement de vivre ensemble. C'était effectivement ça, de dire que tout passe par des regards d'abord, tout passe par des échanges qui peuvent être des crises, des moments violents, mais à un moment donné, on doit, cette société, elle décide que ça va être ça l'œuvre, ça va être ça le moment qu'on va vivre ensemble et qui va être partagé.
Et le off du film est bouleversant aussi, c'est génial ce coup de fil où il négocie avec je sais pas qui au ministère de... comment il va faire avec son préavis de grève et tout ça.
Et il y a un autre coup de fil aussi, c'est par, avec Benjamin Millepied, parce que Benjamin Millepied est arrivé, puis est reparti au bout de combien de temps d'ailleurs, Jean-Stéphane?
Quelques mois.
Et vous captez ce coup de fil entre Lissner et lui.
Oui, Benjamin. Ouais, mais écoute, là, franchement, là, on peut pas continuer. On peut pas continuer dans cette espèce d'aller-retour. Je reste, je pars, comme ça. Je comprends bien tes inquiétudes, tes angoisses, mais je peux pas continuer comme ça. Je veux dire, on a 154 danseurs, avec l'administration, on a 200 personnes. Je peux pas rester dans cette incertitude, dans ce flou. Donc d'ailleurs, tu parles à d'autres personnes qu'à moi, donc... En parlant de tes hésitations, tu t'introduis forcément un doute dans l'esprit des danseurs, dans l'esprit de l'administration et même en dehors, auprès des journalistes. Donc c'est ça qui peut pas... Mais oui, évidemment, j'ai un successeur. Bah, écoute, Benjamin, ça fait 30 ans que je dirige les théâtres. Je vais pas aujourd'hui... rester en attendant ta décision, ton bon vouloir. Évidemment, je me suis organisé et je suis tout à fait prêt. Ben, évidemment. Ouais. Ok, on se rappelle. Ok. Ciao.
Jean-Stéphane Bron, c'est fou. Vous avez un scoop, là, en fait. En gros, un scoop, mais qui va être dégoupillé puisque votre documentaire sort des mois après. Mais c'est vrai. Mais il vous voit le filmer, Lissner.
Oui, mais il savait évidemment que le temps du film, c'était voilà. Et puis, j'avais pas.
Mais c'est aussi le contrat, j'imagine, avec lui, c'est-à-dire de ne pas dévoiler à l'extérieur ce que vous entendiez là. Et en même temps, il s'avère être un formidable communicant parce que cette scène, elle le porte en majesté. Il garde son calme. Il dit des choses extrêmement violentes à quelqu'un. C'est un communicant de lui-même extraordinaire, cet homme quand même.
Mais il est assez comme ça. Hein, j'entends. Oui. C'est évidemment, je suis pas sûr d'avoir. Tout dit de son personnage, qui est aussi un personnage dans le film, c'est-à-dire c'est pas tout de Stéphane Lissner.
Et heureusement pour lui.
Mais mais non, ce qui est quand même fascinant et touchant chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours quand même du côté des artistes, qui est quand même toujours du côté de la prise de risque, et qui est à la fois ce manager de théâtre, ce patron et qui dans les choix des spectacles qu'il fait, voilà, qui a une... donc c'est évidemment c'est toujours intéressant de filmer le pouvoir parce que c'est voilà, il y a quelque chose de fascinant, d'intéressant, et c'était le pouvoir culturel, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup montré, quoi.
Le film s'appelle L'Opéra. Jean-Stéphane Bron, vous restez avec nous, et le pouvoir, il est filmé dans un autre film.
Vous avez 46 ans, vous êtes à un moment phare de votre carrière. Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans?
Dans 10 ans?
Dans 2 ans? Dans 6 mois?
Je ne sais pas.
Non, ça n'est pas une question piège. Je me la pose aussi.
Et alors, vous vous voyez comment?
Vous savez, Catherine, nous sommes dans un monde en mutation permanente. C'est très important de ne pas subir ces évolutions, de savoir les anticiper. Comment vous envisagez la suite?
J'aimerais continuer à travailler au sein de l'équipe, à continuer à donner le meilleur de moi-même, tout en travaillant sur les points que nous avons identifiés ensemble. Voilà.
Il y a des tas de perspectives au sein des Zen. Des tas de possibilités d'évoluer.
C'est-à-dire? Vous pensez que je devrais changer de poste?
Moi, je ne veux surtout pas penser à votre place. Mais on peut y réfléchir ensemble, si vous voulez.
Est-ce que vous me demandez de me mettre en mobilité?
Je peux vous accompagner dans votre réflexion à ce sujet.
Elle s'appelle Émilie Tesson en scène, voilà la bête, celle que vous incarnez, Céline Salette dans Corporette, de Nicolas Sillol, et qui conduit ce questionnaire. Donc échange à la fois réaliste et surréaliste. Au début, une killeuse. Vous en avez rencontré des killeuses?
Pas vraiment.
Ah.
Non. Moi, je me suis surtout appuyée sur le travail de recherche qu'avait fait Nicolas. Mmh. qui était un très long travail de recherche. C'est très difficile de rencontrer des gens qui témoignent de ce genre de pratique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
C'est-à-dire, il y en a, et il y en a aussi probablement qui sont en questionnement par rapport à ces pratiques. Mais c'est vrai que c'est pas des gens, en général, qui sèment la bonne parole autour d'eux en disant,
oui, je dégraisse allègrement.
Oui, j'ai vraiment fait de la merde pendant 10 ans. Maintenant, je voudrais en parler à tout le monde. Non. Je suis une ordure.
Cette killeuse, ça commence aussi par une tenue, parce que la vôtre est vraiment pantalon noir, chemise blanche, impeccable. Sexy et viril, dit-il Nicolas Sciol, donc joué sur les deux tableaux. Moi, j'ai l'impression que ce rôle, le film aurait été réalisé il y a 10 ans, il aurait été confié à un homme.
Oui, c'est sûr.
Ouais.
Ben, bien sûr. C'est la grande force du film. Il y a d'ailleurs deux rôles féminins principaux.
Oui.
Puisque cette... Alors, ce qui est assez beau, parce que j'étais pas tellement d'accord avec le fait qu'on puisse dire, tiens, cette femme est virile. Pourquoi? C'est pas parce qu'on exerce une forme de pouvoir qu'on n'est pas féminine. Enfin, ouais. C'est pas une qualité masculine. Et en revanche, la définition de Nicolas, c'est plutôt de dire la virilité, ce serait d'exercer, de ne pas avoir peur d'exercer de la souffrance sur les autres. Et ce serait comme la définition de ce personnage, Émilie Tesson. Elle revendique le fait de ne pas avoir peur de faire souffrir les autres.
Mais elle vit à côté de la vraie vie, cette femme, quand même, non?
Ah non.
Non, mais elle est dans la vraie vie d'entreprise, mais elle est dans sa bulle d'autorité.
Alors,
quoi.
C'est un personnage qui est très cadenassé. On raconte, ce qui est beau, c'est que à l'intérieur, en piste et dans les coulisses, Nicolas, il peint ce personnage. Avec aussi ses failles un peu par derrière, ses fuites. C'est un personnage qui est cloisonné en cloche, dont la grande question, c'est la domination d'elle-même et celle des autres, et donc qui est comme ça, cadenassé, un peu coupé de ses ressentis, un peu dans l'absence, un peu dans la... dans le et là et une certaine forme de revendication de ce qu'elle fait.
Mais l'histoire du film, c'est
qu'elle manage, quoi. Elle manage. Elle est d'accord.
C'est la façon dont elle fend l'armure. C'est ça,
et ce qui est beau dans la complexité de ce qu'a fait Nicolas, parce que c'est même si on a du mal à s'identifier à ce personnage au début en tant que spectateur, c'est souvent le retour qu'on a. On finit par mesurer la dose de d'humanité qui coule, qui glisse comme ça, qui fuit d'elle. Et en fait, elle va bouger, mais pour survivre. C'est ça qui est c'est la force du film, je trouve. C'est pas manichéen. On se dit pas tiens, elle a tout compris. Elle a compris que non. Elle, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle doit survivre. Elle est acculée par cette inspectrice du travail qui vient, et c'est le deuxième personnage féminin très fort du film, qui est une espèce de d'intrusion de réalité dans le schéma, dans le système de grains de sable, et qui va venir la pousser un peu dans les cordes, faire une enquête, et parce qu'elle va se retrouver déstabilisée, un peu lâchée par sa hiérarchie, qu'elle va retrouver le même genre de conduite qu'elle menait, c'est-à-dire les portes sont fermées devant elle, on la fuit, et puis elle se retrouve un peu mise à distance. Elle va voir la situation autrement.
Mais c'est quand même un petit soldat, parce qu'elle a également, elle, peur de son chef, malgré tout, et ce chef, c'est Lambert Wilson.
Et t'étais passé où?
J'ai essayé de rattraper Jean Lemoy.
Tu l'as accompagné chez lui et vous avez passé le week-end ensemble. Je veux que tu répondes quand je t'appelle. Alors, tu fais en sorte que Pénaud ne porte pas plainte, tu le trouves en remplaçant sur le champ, et tu arrêtes Maury le temps que ses nerfs se calment. Je ne veux plus de vagues jusqu'à ce que l'inspectrice ait terminé son enquête, c'est clair?
D'accord.
Ordre du jour.
Stéphane, j'ai fait mon travail. Il n'est pas question que je paye pour tout le monde.
Et c'est quoi ton travail exactement? Tu peux m'expliquer? C'est de pousser les gens à se foutre en l'air?
On sait pourquoi tu m'as recruté.
Tu joues à quoi, là? Tu me menaces?
Non, j'anticipe.
Ah, je vois. Alors, je t'engage sincèrement à faire très attention à ce que tu dis.
Je te remercie du conseil.
Extrait de Corporate de Nicolas Sciol. Jean-Stéphane Bron, vous avez vu ce film pour nous?
Absolument, admirable. Non, j'ai trouvé, non, et on parlait de fond de l'armure, mais je trouve qu'il y a un geste qu'elle fait qui est très... Elle s'essuie les aisselles, en fait, elle transpire, elle change de chemise. Et en fait, c'est un geste très simple, mais là aussi, on est dans un truc d'intimité tout à coup. Et C'est ça qui fait qu'on s'identifie aussi au personnage. Et après, c'est vrai que c'est rare. Au cinéma, on a souvent fait la sociologie de l'opprimé. C'est rare qu'on fasse le portrait de l'oppresseur qui est lui-même oppressé, quoi. Je sais pas comment dire. C'est un personnage oppressé. Le film est extrêmement documenté. Je trouve que ça se sent.
C'est incroyable. C'est une des choses qui me touche le plus, moi, à chaque fois que Nicolas fait le déroulé de ce qui est écrit dans le film. C'est-à-dire, les personnages sont fictifs, mais les méthodes de management sont réelles. Et quand il fait le déroulé, en général, à la fin des films, de qui exactement, quoi dans le film appartient à qui, c'est assez sidérant, quoi. Parce que dans le film, à un moment, il est dit, tiens, votre mère a Alzheimer, on va vous envoyer à la limite de la clause de mobilité, blablabla. Enfin, toutes ces techniques de management sont déployées, décrites, dépeintes, et elles sont folles quand même.
Est-ce qu'on peut faire un petit jeu, Céline Salette? Est-ce que je peux me mettre à votre place?
Oui.
Céline Salette, vous avez 36 ans,
oui.
Vous êtes à un moment phare de votre carrière.
Oui, d'accord.
Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans?
Dans 10 ans, bien au-delà. Alors moi, j'ai des visions comme ça de moi à 60 ans. J'ai hyper envie d'apprendre à faire du bateau. Parce que je me vois bien sur un voilier, tout ça. J'ai hyper envie, si ma fille a des problèmes de cœur, de pouvoir lui dire, tiens, viens, on va aller faire un tour en bateau, tout ça, avec une caisse de champagne. Ça, je vois. Après, qu'est-ce que je vois d'autre? Dans 2 ans, par exemple, j'aimerais bien avoir tourné le film sur mon temps. J'aimerais bien avoir joué Simone.
Dans 6 mois.
Dans 6 mois, j'aimerais bien être allée à Cannes avec le film d'André Téchiné.
C'est très important, Céline Salette, de ne pas subir ces évolutions, de les anticiper.
Mais c'est tellement vrai.
Ouais.
Ce qui est dur, c'est que dans ce film, ce sur quoi s'appuie ça, c'est-à-dire la proactivité, c'est-à-dire ne pas s'en remettre à l'extérieur, mais être leader, acteur de sa vie, quoi. Ça, c'est une chose auquel je crois moins profondément. C'est le marketing, c'est la différence entre ce qui est dit et l'intention qu'il y a derrière. On y assiste en politique aujourd'hui, on voit bien, tous les candidats disent, on veut la France libre, on veut que les Français soient heureux. On a l'impression qu'ils vendent de la mousse au chocolat, carrément. Non, mais je veux dire, tout le monde est d'accord pour les mots employés, le marketing de ce qu'ils vendent. On est content, quoi. On a tous envie d'adhérer, quoi. Mais c'est l'intention qui compte. Et l'intention n'est pas toujours nette.
Vous n'avez jamais rencontré de DRH dans votre vie?
Non. Mais en même temps, c'est ce que disait Lambert, nous c'est vrai qu'on est un peu tout le temps sur le marché du travail on est un peu dans la jungle, quoi. Nous, c'est vrai qu'on est hors système, quoi. Enfin,
puis au moment des castings, un réalisateur, c'est un DRH quelque part. Enfin,
oui, oui, bien sûr. Oui, oui, il y a ça. On est tout le temps un peu en entretien d'embauche.
C'est
oui,
ça,
voilà.
Oui.
Oui. Bah oui, oui.
Et puis,
êtes-vous capable de parler de votre film en promotion? Oui. J'ai bafouillé, mon Dieu, j'ai bien fait la promo.
Non, mais il y a de la violence aussi dans votre métier, c'est-à-dire que tout d'un coup, une autre fille peut être choisie à votre place.
Oui, oui.
Alors moi, je crois pas tellement à la concurrence entre les acteurs. Je crois pas du tout qu'on soit ni interchangeable, ni franchement en concurrence. On est des individus, on est très spécifiques, on est des particuliers quand même. Bien sûr, moi, ça m'est arrivé. Ça me vient quelque chose. Non, mais c'est bien sûr. Parfois, on remplace des gens. Ah oui. Mais ça n'est pas pareil. On n'est pas pareil que les autres. Donc, moi, je crois qu'on est son pire ennemi. Mais je crois que c'est le cas dans la vie en général. Hein. Je crois qu'on peut ouvrir
vous,
ça. On peut ouvrir ça philosophiquement. Ah non, je pense qu'on est tous nos pires ennemis. Mais en termes de tout, d'ambition, d'amour, je veux dire, on est son propre bourreau. Parce que... je peux citer Barbie ou pas? Il n'y a pas longtemps, ma fille a re-regardé Barbie. Dans Barbie, il y a une professeure qui dit comme ça, Barbie, apprentie princesse. Elle dit personne ne peut te laisser. Attendez. Personne ne peut te dévaloriser sans ton consentement. Tu dois donner ton consentement pour te laisser dévaloriser, pour être d'accord, quoi.
Barbie comme philosophie.
Il faut toujours en revenir aux fondamentaux.
La base.
Non, c'est
les lectures fondamentales.
Tout à l'heure, vous citiez il y a un rôle que vous aimeriez bien tenir, c'est celui de Signoret.
Ouais.
Ça, c'est un sacré exemple, quand même, d'actrice, non?
Oui, bien sûr.
De femme responsable.
Oui, bien sûr.
Politique, décide.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est très difficile. La politique aujourd'hui, par exemple, eux, à l'époque, ils étaient engagés dans... Il y avait deux grandes idéologies. Mmh. On a assisté à la mort des idéologies dans le siècle. Il y a des livres là-dessus. Et du coup, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une autre forme de société. Mais moi, je ne suis pas pessimiste. Je vous le dis sincèrement. Je pense qu'on est de plus en plus éclairé. Je pense qu'on n'a jamais été aussi éclairé. Parce qu'on a des éclaireurs, comme Monsieur Bron, comme d'autres. on a des gens qui témoignent de formes nouvelles de société, de la façon dont on peut inventer d'autres choses. Par exemple, de nouvelles techniques de management. Genre, on parle de sieste au travail, on parle de... Vous voyez ce que je veux dire ? De coopération. Ça, c'est, on le découvre.
Mais pour l'instant, c'est pas celles-là qui sont à l'œuvre. Hein.
Non.
Non, mais c'est ce qui va devenir. Moi aussi, je suis très.
C'est la lumière. Ouais, c'est la absolument. Lumière qui arrive. On est éclairé, on commence à être éclairé. Mais non, mais je vous jure, c'est vrai. Et à partir du moment où on commence à être éclairé, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. On ne peut pas ne pas voir d'autres solutions. Mais de la même manière, on va retourner aux coopératives et tout ça, on va refaire les systèmes courts et tout ça. Ça y est, maintenant, on commence à cerner le problème, j'ai l'impression.
Preuve que vous êtes une vraie actrice de composition, on écoute un extrait de Corporate avec l'inspectrice du travail, justement.
Fin janvier 2015, Froncard a organisé un séminaire à Chamonix. Il a choisi Chamonix parce qu'il y allait quand il était petit. Il pouvait crâner sur les pistes avec son chamois d'or. Non, on n'enregistre pas. Donnez-le-moi. Officiellement, c'était un week-end d'intégration pour les nouvelles recrues. En fait, c'était la présentation du plan. La préparation du plan de bataille. Il y avait une vingtaine de RH et autant de managers. La grande nouveauté, c'était les évaluations comportementales. C'était ça, le bébé Troncard. Ça nous permettait de cibler les éléments récalcitrants. Ceux qui résistent. Au changement. Et cela, pas question de les licencier. Il fallait les bouger. Et c'est là que on passait en phase 2. L'incitation à la mobilité. C'est comme si on demandait à un salarié de se mettre lui-même au placard. Phase 3, la guerre des tranchées. Vous voulez bouger ? On n'a rien pour vous. Et vous n'en tirez les conséquences. Démissionner. Ça, on n'a pas le droit de le dire. Le rôle de RH, c'est de faire en sorte que le salarié accepte son sort, pas de lui dire qu'on ne veut plus de lui.
En même temps, elle est cache et franche, cette femme, hein, Jean-Stéphane Bron.
Non, mais qu'il accepte son sort, mais surtout qu'il en est responsable.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est ça la perversion du système, c'est de dire si vous êtes pauvre, c'est que c'est de votre faute. Et de le faire accepter.
Il y a une jouissance à dire ce genre de dialogue, c'est une salette ou pas?
En tout cas, je sais pas ce genre de dialogue. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce personnage dans ce film avec ce metteur en scène-là. Avec ce parcours-là, c'est quand même un cadeau dingue. Enfin, franchement, des rôles de femmes comme ça, il n'y en a pas beaucoup pour les actrices.
Ça s'appelle Corporate de Nicolas Sihol et ça sort mercredi prochain. On se retrouve pour les sorties de la semaine, Laurent, après Les Villards, d'émission pour Claire.
Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. Hé, patron, prends ça dans ta trompe. Démission unilatérale, démission sans préavis, démission sans putain de pointage au chômage. Scotché sur tes lunettes de champion mondial du dentifrice. Tous en même temps. Démission massive, démission collective, démission générale. On n'en veut plus de vos virements de radin. On n'en veut pas de votre putain de SMIC à la con. Et tout le conseil de masturbation. Là comme ça demain, on fait le mur, on détale tous, on déclare le rêve général.
avons le devoir de désobéir à tous ces marchands de bétail, à tous ces DRH et autres grands prêtres en management. Le devoir d'en finir. Vous m'entendez, les galériens? On prend sa main droite, on prend une feuille, un stylo, on écrit. Madame, monsieur, j'ai l'honneur et le plaisir de vous caler ma démission entre les deux parties charnues et avec mon meilleur souvenir. Démission, vous êtes pas encore parti. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille, un truc qui nous rabaisse, un truc qui nous salit. Non, on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça gratos, ça va vous faire drôle. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume des enclos. Elle attendra l'économie qu'on lui trouve un putain de sens.
Laurent, qu'est-ce qui a le mieux marché ce mercredi de sortie ?
Eh bien, ce qui a le mieux marché, c'est le film dont vous allez bientôt nous parler, qui s'appelle Baby Boss.
Ah,
c'est pour vous, c'est pour tous les grands enfants. Et puis Ghost in the Shell, et ensuite Telle mère, telle fille, en troisième position du peloton.
On va commencer par Félicité d'Alain Gomis, le portrait d'une femme, Félicité, et celui d'une ville, Kinshasa, en RDC, en République démocratique du Congo, une femme chanteuse le soir dans un bar, et dont la vie va basculer lorsque son fils de 14 ans est victime d'un accident de moto, hospitalisé et opération hors de prix. S'engage alors pour elle une course folle dans les rues. Son énergie, Laurent, je trouve qu'elle fait penser à celle de l'héroïne du dernier film de Briante Mendoza, Ma Rosa, une mère courage. Mais Alain Gomis a plus d'ambition. Il va mélanger à ce quotidien du lyrique et du presque mythologique. Des songes vont donc alterner ce récit. C'est la partie la plus originale, même si on ne les ressent pas comme il tente de les traduire, pas toujours réussi. Dans un récit qui se distend inutilement. La vraie poésie du film, elle est sur le visage de l'actrice, non ?
Oui, mais je serais moins sévère quand même que vous sur ces apartés, on va dire, oniriques, que je trouve assez quand même réussi. C'est bien d'avoir des nouvelles d'un cinéma d'Afrique noire, parce qu'on ne veut pas dire que les écrans et là soient envahis, mais on sait économiquement pourquoi. Mais c'est très très bien d'avoir de ces nouvelles, avec effectivement un film qui est plein de références. Quand on a un personnage qui s'appelle Félicité, on peut aussi songer à Flaubert, et c'est un personnage quelque part flaubertien dans cette façon très digne et très droite, malgré tout, de se tenir contre vent et marée. Et puis, il y a des choses très particulières qui sont des incursions musicales qui vous plairaient beaucoup, Jean-Sylvain Lecron, parce que c'est de l'opéra, enfin c'est de la musique en tous les cas d'un opéra écrit par l'Estonien Arvo Pärt et qui est joué par des amateurs, mais quels amateurs du cru. Et c'est, ça, ce sont des scènes extrêmement belles et qui font quand même globalement de Félicité un magnifique objet cinématographique actuel qu'il faut aller voir.
Le nom de cette extraordinaire actrice, elle s'appelle Véronique Bay Mputu.
Exactement.
Jasmin et Toussaint de Claudia Sainte-Luce. À 60 ans, en raison d'une santé fragile, Toussaint doit s'installer chez sa fille, pardon, qui vit à Mexico, d'origine haïtienne. Toussaint n'a jamais été capable de prendre racine nulle part. Il n'a pas été un père aimant et presque un parfait inconnu pour sa fille.
Oui, on aimerait dire un peu plus de bien d'un film dont on sent bien toute à la fois l'exigence, la sincérité. C'est précisément peut-être par un excès de sincérité, parce que ce film fait dans l'autofiction, puisque la réalisatrice joue dans son film et qu'elle parle de ses relations avec son père. Eh oui, c'est chargé. Et quand ce père est effectivement à un Alzheimer, comme c'est le récit du film, ça, on est mis, nous, dans une position un peu trop voyeuriste à mon sens, et j'ai l'impression, c'est une impression, que la réalisatrice a manqué de la distance nécessaire pour raconter cette histoire forcément dramatique et de cette relation avec ce père qui sont effectivement des relations difficiles, on va dire.
Prix de cours d'Emmanuel Le Clos. Claude Sautet aurait adoré cette actrice, Cazavette aussi. Virginie Efira existe avant le film. Sur l'affiche, une femme dans la ville, regard de profil, inquiète et forte à la fois. Une femme qui vient de s'installer à Paris avec ses deux garçons pour entamer un nouveau travail dans une joaillerie, laquelle lui annonce, c'est le début du film, qu'elle n'a finalement pas été choisie. Et pour protéger ses enfants, elle décide de ne rien leur dire. Petit mensonge qui en entraîne d'autres. Un engrenage, une histoire simple en apparence, filmée sobrement, un peu trop peut-être, un thriller familial, définit la réalisatrice, et à l'intérieur, un soleil froid, Virginie Efira, l'inverse du rôle précédent, Victoria, elle qui s'est encaissée les mauvais coups de la vie, mais déterminée à sauver sa famille, Laurent, jusqu'à une issue qui, bizarrement, ne ressemble pas à l'esprit du film.
Ah, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que c'est une belle ode à la famille, comme une sorte de cellule refuge, un cocon. On a besoin, certainement, de ces cocons en ce moment, alors bien loin de telle mère, telle fille, autre calombre d'aine familiale. Le Emmanuel Cuau vraiment s'empare de cette cellule familiale avec beaucoup d'allant. Elle a deux co-scénaristes avec elle, qui sont Raphaël Desplechin et Eric Barbier. Le trio fonctionne très, très bien, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'invraisemblance, contrairement à ce qu'on nous serine en ce moment. On était resté sans nouvelles depuis 7 ans d'Emmanuelle Cuau. On se dit qu'elle devrait être beaucoup plus présente dans le cinéma français. Tant sa façon notamment d'être en mouvement, d'avoir un cinéma en mouvement. L'un des héros du film est un délinquant qui n'arrête pas de sillonner Paris sur un skateboard. Oui, et ça, c'est merveilleusement filmé. C'est un vrai bonheur de cinéma et ça fait une comédie qui enfin ressemble à quelque chose et qui n'est pas dans le courant actuel de ces comédies aussi vite vues qu'oubliées.
Paris la Blanche de Lydia Terki. Sans nouvelles de son mari, Rekia, 70 ans, quitte pour la première fois l'Algérie pour ramener Nour au village. Mais l'homme qu'elle finit par retrouver est devenu un étranger. C'est tendre, c'est modeste. Une héroïne, écrit Pierre Murat dans Télérama, à la fois résignée et obstinée.
Oui, alors c'est tendre, oui, d'accord. Et c'est un peu trop modeste au bout d'un moment. Enfin, à mon sens, ce scénario co-écrit avec Colo Tavernier par la réalisatrice, on l'aimerait un peu plus chargé à un moment. C'est-à-dire que tenir le film juste sur cette petite note-là de cette femme qui essaye effectivement de renouer les fils d'un passé, ça finit par être un peu trop ténu et c'est dommage parce que l'actrice est formidable. Il y a manifestement une vraie capacité à filmer la banlieue, les paysages qui changent, etc. Mais on a le sentiment de quelque chose d'un petit peu trop fragile. Voilà.
Utu, ça s'écrit UTU, sorti en 84 et ressorti, restauré aujourd'hui. À l'époque, la plus grosse production néo-zélandaise, signée Geoff Murphy. Nouvelle-Zélande, dans les années 1870, les Anglais viennent de coloniser le pays. Un jeune guerrier maori, Te Weke, une sorte d'éclaireur des troupes coloniales, découvre sa tribu massacrée par l'armée pour laquelle il travaille. Il va alors décider d'infliger le même châtiment aux auteurs en commettant à son tour des actes aussi terribles que ceux qu'il dénonce, contre ses valeurs et contre ses origines. Un homme contradictoire, un questionnement passionnant où le mal ne vient pas forcément de là où on l'attend. Le film, vous l'aurez compris, est très violent, mais jamais gratuitement, avec un souffle. Mais un souffle étonnant qui le traverse, épique, western, fable philosophique et cruelle. On ne voit plus de films pareils, Laurent. Je sais pas, c'est une expérience physique comparable à celle qu'on a ressentie devant Incendie de Denis Villeneuve. Et ça, c'est une sacrée référence pour nous.
Pour nous, oui, absolument. Faut dire, c'est un film qu'on a découvert au Festival Lumière, pour rendre hommage à Lyon. Cette année. Et c'est, vous le disiez, c'est une sorte de western. Ouais. Mais c'est d'une violence et d'une force incroyable. Et il faut le voir, évidemment, sur grand écran. Hein. C'est un vrai film de cinéma.
United Kingdom de Hama Asante en 47. Le jeune roi du Botswana se marie avec une londonienne. Ça sent un peu le biopic classique.
Ben oui, bon, j'avoue, je ne connaissais rien à la façon dont le Botswana a été créé. Ça, c'est très intéressant, cette colonie anglaise à côté de l'Afrique du Sud, donc en plein apartheid, qui arrive, bon an, mal an, à se constituer dans un contexte de décolonisation. Tout ça est passionnant. On se dit qu'un documentaire là-dessus, on le suivrait avec bonheur. Et là, c'est plongé dans l'eau de rose, dans les clichés, dans l'image d'Épinal, et le propos est affaibli par cette façon incroyable de raconter cette histoire si forte par ailleurs.
Très vite donc, Baby Boss, un film d'animation signé DreamWorks et réalisé par Tom McGrath. L'homme à l'origine de la saga Madagascar, pour ceux qui suivent. Baby Boss est un bébé hors norme, il porte une cravate, se balade avec un attaché-caisse et à la voix d'un adulte. Baby Boss devra affronter la jalousie du frère aimé, Tim, 7 ans, qui va finir par découvrir que ce bébé est en fait un espion. Pitch a priori abracadabrant.
Oui, je vous le confirme.
Et autour du thème universel de l'arrivée d'un nouveau-né dans une famille et le sentiment d'abandon ressenti par l'aîné. Le film est très malin puisqu'il tente et réussit ce parallèle très spécieux entre comparer le monde du business aux conflits familiaux, le tout dans un rythme effréné. L'arme fatale du bébé, c'est le vomi. C'est très réussi dans la première partie, ça s'encombre un peu d'une action inutile dans la deuxième et à la fin vous pensez que la morale est sauve, mais pas tout à fait. On termine par un doc, Laurent, pourvu qu'on m'aime.
Oui,
très vite, hein, parce qu'on a très peu de temps.
Non, c'est un doc italien plein de bons sentiments sur des copains qui essayent de faire en sorte que leur Ami Enea, handicapé mental autiste, puisse enfin découvrir les joies de plaisir physique. C'est tout aussi bricolé que sympathique et maladroit.
Des cadeaux pour nos invités, on va commencer par...
Céline Salette, bien sûr, et nous lui offrons Valmont, film de Miloš Forman, qui ressort en version 4K, ne nous demandez pas ce que c'est, totalement restauré par...
Chez Pathé,
avec Annette Bening, qui est une version qu'il faut revoir, qui était un petit peu effacée par celle de Stéphane Frears. Or, la version de Miloš Forman vaut vraiment le déplacement.
Et rien pour Jean-Stéphane Moreau.
Bien sûr que oui, un film qu'on a énormément aimé, un autre documentaire d'Olivier Babinet qui s'appelle Swagger. On avait reçu ici même Olivier Babinet et Sarah Logereau, la prof qui est à l'initiative de cette belle idée de faire en sorte de faire le portrait de ces 11 adolescents d'Aulnay et de Sevran. Voilà.
Merci beaucoup à tous.
Et c'est chez Réseau Film.
Oui. Merci Céline Salette.
Merci beaucoup. Corporate
de Nicolas Sillol et merci Jean-Stéphane Bron.
Merci à vous.
Metteur en scène de l'opéra. Et vous allez d'ailleurs signer notre générique, et je vous fais signe à la semaine prochaine.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Jean-Stéphane Bron, j'y étais.
Et moi, Céline Salette, j'y étais.